Vous êtes toujours sur Radio Entre Deux Mers et aujourd'hui, on est actuellement avec Anne pour Conversation autour du cinéma. Bonjour Anne.
Bonjour Thibault, j'espère que tu vas bien, oui.
Bah écoute, ça va très bien et toi?
Oui, moi aussi, oh là là, bah oui, tu sais bien, dès qu'on retrouve nos auditeurs, moi, allez hop, ça repart, la machine repart. J'aime tellement être avec eux, même si on ne les voit pas. Mais j'aime tellement être avec eux, essayer de leur faire plaisir aussi, de leur raconter des choses qui peuvent les intéresser, que vraiment, ils me manquent. Voilà, le reste du temps, ils me manquent. Donc, je vais bien. Et je sais que c'est pour toi la même chose, hein. C'est pareil hein, pour toi.
Évidemment, voilà. Évidemment.
Veux-tu qu'on commence par un film pour les petits enfants?
Eh bien, pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est à partir de 3 ans d'ailleurs, c'est pour ça que je dis les petits-enfants. Ça s'appelle « Vive le vent d'hiver ». J'aime bien ce titre, c'est joli je trouve. « Vive le vent d'hiver », c'est de l'animation, c'est pour la famille. Hein. Ça dure 35 minutes, hein. Donc à partir de 3 ans, il n'y a pas de problème, 35 minutes, ils tiennent le coup. Hein. Et alors là, on a plusieurs animateurs, parce que c'est quand même produit par l'Allemagne, la Bulgarie, la France, la Lettonie, la Belgique, les Pays-Bas et la Russie. Tout le monde s'y est mis, c'est trop joli. Alors, pardon, c'est un programme qui réchauffe les cœurs à l'arrivée de l'hiver. Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison. Alors là, nous avons 5 films, des courts-métrages bien sûr, plébiscités en festival. Ils ont été reçus avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir dans les festivals et réalisés par les nouveaux talents de l'animation européenne. Premier court-métrage, Michou, de Mylène Vitanoff. Ça vient d'Allemagne, de Bulgarie, ça dure 8 minutes. La vie de 4 lièvres de l'Arctique prend un tournant inattendu après la découverte d'une étrange créature. Deuxième court-métrage, Chute, petit ours, de Mara Linina, c'est la Lettonie, ça dure 5 minutes. Pendant que les parents ours font des réserves pour l'hiver, les oursons s'amusent joyeusement avec une pelote de laine. Troisième court-métrage, Luce et le rocher, de Brit Rice. C'est la Belgique, la France et les Pays-Bas. Ça dure 13 minutes. L'histoire de 2 amis qui, bien qu'ils ne semblent rien n'avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur peur de l'inconnu. Quatrième court-métrage, Le bonhomme de neige, de Alexei Potchivalo. C'est la Russie, ça dure 3 minutes. Un jour, toutes les carottes d'une famille de bonhommes de neige disparaissent. Cinquième et dernier court-métrage, Une visite surprise, de Marina Moshkova. C'est la Russie, ça dure 6 minutes. Dans le Grand Nord vit un ours polaire, très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu. Voilà donc les 5 courts-métrages. C'est beau, c'est mignon comme tout. Les dessins sont absolument sublimes. La musique est jolie, voilà. Tout le monde s'y est mis et c'est très très joli. Un joli, joli long-métrage de 35 minutes. Vive le vent d'hiver, à partir de 3 ans. Eh ouais. Voilà, c'est trop joli, trop joli. Et puis j'en ai un autre, tu sais Thibaut. J'en ai un autre.
Dis-moi tout, c'est... puis c'est...
Mais oui.
Dis-nous tout, parce que c'est pas moi qui t'écoute. Hein.
Eh bien, c'est un autre film d'animation à partir de 3 ans également. Ça s'appelle, attention, c'est sérieux, Opération Père Noël. Surtout que ça se rapproche quand même. Hein. Bientôt, on va arriver à décembre. Et alors là, on ne rigole plus. N'est-ce pas?
Ce serait pas que tu répètes parce qu'on ne t'a pas entendu, en fait.
Ah bon? Alors, c'est encore un film d'animation de 43 minutes pour les enfants à partir de 3 ans et ça s'appelle Opération Père Noël. Voilà, et je disais ça, c'est du sérieux, attention. Hein. Père Noël, oula, qui va pas tarder, hein, parce qu'on va bientôt arriver à décembre. Ça, je l'avais dit, je ne sais pas si on l'a entendu, mais c'est le mois de novembre, va bientôt s'achever.
Comme je disais la dernière fois, disais la dernière fois, ça va être la saison des boules de Noël et des sapins. Et bien sûr, les sapins qui, avec le temps, vont faire tomber tous leurs épis et il va falloir tout nettoyer.
Oui, mais ça, tu sais, les petits de 3 ans, ils s'en fichent de ça. Ce qu'ils voient, eux, c'est le
Oui.
sapin. Ils attendent le
Ah oui,
Père Noël.
c'est qu'il
Et
nettoie,
puis, et
forcément.
voilà. Et puis, au matin, ils voient leur petit cadeau. Voilà. Là, on est à Opération Père Noël. Alors, on a deux réalisateurs. On a Caroline Attia, réalisatrice scénariste française. Et puis, on a Marc Robinet, qui est un réalisateur, un animateur, directeur de l'animation. Il est français également. Et alors, là, on a donc la première histoire. Je dis un peu hein, ce que c'est quand même. Enfant gâté, vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Oh là! Alors cette année, il demande comme cadeau oh, le Père Noël en personne. Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice? Les deux enfants vont s'unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde. Alors ça, c'est Marc Robinet qui l'a réalisé, parce qu'on a un second programme qui s'appelle Au pays de l'aurore boréale, et c'est Caroline Attia qui l'a réalisé. C'est l'histoire de Colin, qui, depuis la mort de ses parents, habite chez son grand-père, Karl. Quand son grand-père part chasser le narval, Colin se retrouve passager clandestin de sa maison traîneau. Il devra surmonter ses peurs et apprendre les secrets du Grand Nord. Alors, on rappelle quand même que le narval, ben, c'est quoi? C'est une espèce de cétacé hein, qui vit dans l'océan Arctique. C'est quand même un animal qui fait à peu près 4 à 5 mètres de long. Hein. Le narval, c'est pas une petite sardine, hein, on est d'accord. C'est donc
Ah
un
oui,
gros, voilà, un gros poisson.
un bocal.
Voilà. Donc, Opération Père Noël dure 28 minutes et au pays de l'aurore boréale dure 15 minutes. Voilà. C'est 15 minutes, 3 secondes même, pour être plus précis.
Pour être
Ouais,
précis.
voilà, pour être plus précis, c'est joli, c'est joli, c'est joli comme tout. C'est adorable. Oh là là, il faut emmener vos enfants. Et puis, vous pouvez regarder aussi, vous, hein, si vous avez 43 minutes devant vous, avec vos petits et puis vos grands, parce que c'est à partir de 3 ans, mais ça peut aller jusqu'à. Vous connaissez vos enfants, vous savez ce qu'ils peuvent aimer ou pas, et combien de temps ils peuvent tenir sur un fauteuil de cinéma. Dans un cinéma de proximité, bien entendu. Voilà. Opération Père Noël. Ouais. Mais tu sais que, Thibault, j'ai encore un film d'animation. J'en bégaie, ma
Mais
foi. Ah.
c'est Noël avant l'heure, là, on n'est même pas en décembre.
Mince alors. Bah oui. Non, mais alors celui-là, attention, hein, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour adultes, quand même, plutôt. Hein. Certainement
Ah,
pas pour les 3 ans.
on peut ranger les sapins et les boules de Noël, alors.
Oui, non, les 3 ans, les pauvres, ils s'ennuieraient. C'est un très beau film d'animation, c'est musical, c'est fantastique. Il y a du drame, il y a de l'historique dedans quand même. Hein. Ça dure, je l'ai dit, hein, je viens de le dire, dans 1h38. Et c'est Masahaki Yuasa qui l'a réalisé. C'est un réalisateur scénariste japonais. Il a 57 ans, 17 ans de carrière et 13 tournages à son actif. Alors, c'est vrai qu'il a travaillé avec l'auteur de cette histoire qui s'appelle Hideo Furukawa, et il a travaillé avec le scénariste Akiko Noji. Ce sont évidemment deux Japonais. Alors, c'est titré, je le dis tout de suite quand même, avant de parler de l'histoire, l'un des meilleurs films de l'année. Une épopée merveilleuse au panthéon de l'animation japonaise. Carrément, quand même. Hein. Il y a 3 nominations à la Mostra de Venise 2021. Ah, quand même. Belle nomination. Et alors, il s'agit de quoi? Inuho. C'est Inu, Inu, trait d'union OH. Inuho, créature maudite, est née avec une particularité physique, l'obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu'il rencontre Tomona, un joueur de biwa aveugle. Hein, alors, un biwa, je dis tout de suite ce que c'est. Hein, c'est un instrument de musique à cordes traditionnel japonais. En fait, c'est un luth à manches courtes et qui est dérivé du pipa chinois. C'est à peu près le même. Voilà ce que c'est qu'un biwa. Donc, c'est un joueur de biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et ils deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d'Inuho, ils devront continuer à danser et à chanter au risque de déranger l'ordre établi. Je n'ai pas dit, mais Inuho a été produit par le Japon et la Chine. La Chine aussi. Voilà. C'est rare hein, que la Chine se mette avec le Japon pour produire, mais ça arrive. Pour un film merveilleux. Ouais, c'est très rare. Ouais.
C'est très rare, on est parce que.
Tout à fait. Non, c'est vrai que c'est rare.
Vénère.
Voilà. Ah, alors là, j'ai un film qui a un titre quand même assez curieux. Il est très long, ce titre, et on ne sait pas. Au début, on se demande ce que c'est que c'est. Ça s'appelle Ce ne sera pas notre dernier Noël. Ça, c'est le titre du film.
D'ailleurs, on peut donc ressortir les boules de Noël et les sapins, alors.
Voilà. Et c'est, sur l'affiche, d'ailleurs, le titre c'est titré sur trois lignes. Ce ne sera pas notre dernier Noël. C'est écrit dessous en gros. Voilà, ça prend de la place, un titre comme ça, n'est-ce pas? Et il y a écrit aussi sur l'affiche, leurs parents se déchirent. Ils vont les faire chanter. Ah, on a envie de savoir ce qui se passe. Ça dure 1h41, c'est musical, hein, c'est une comédie musicale de Juan Manuel Cotelo. Juan Manuel Cotelo, réalisateur, scénariste, acteur espagnol, il a 56 ans, 19 ans de carrière, 4 longs métrages de tournage, voilà. C'est une comédie musicale très familiale en fait, hein. D'ailleurs, il est noté quand on regarde la bande-annonce, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau de Noël. C'est à partir de 8 ans, c'est pour la famille. C'est on va voir ce que c'est que cette histoire quand même. C'est l'histoire d'un couple au bord de la rupture qui part en vacances avec ses 3 enfants dans leur maison de famille. Ils ont décidé de divorcer après Noël, sans prévenir leurs enfants, pour ne pas gâcher la fête. Mais ces derniers découvrent leur projet et décident d'enfermer leurs parents tant qu'ils ne se sont pas réconciliés. Ah, c'est pas banal hein, comme film, hein. C'est vraiment pas banal. Je répète ce qu'il y a écrit sur l'affiche quand même, vous le verrez. Leurs parents se déchirent, ils vont les faire chanter. Voilà, et là, on a une explication dès que le film… Enfin, au bout d'un quart d'heure, on a l'explication. Au bout d'un quart d'heure du film, alors dans les rôles, on a la grand-mère, c'est Mamen Garcia. C'est une actrice espagnole. On a Teresa Ferrer, Carlos Aguillo. Je n'ai que des acteurs espagnols, là, de toute façon. On a Juan Sanchez, 3. On a Anna Bravo et Eva Bravo. On a Miguel Alejandro Serrano, on a Juan Manuel Cotelo, Juan Manuel Cotelo, le réalisateur qui est aussi acteur dans ce film. C'est un film qui n'est pas banal du tout, hein. C'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, ce genre de film vraiment quoi. C'est en fait le réalisateur, il a voulu réaliser un film drôle sur un sujet aussi sérieux que celui de la rupture familiale. C'est ça, surtout. Hein. Voilà, ce ne sera pas notre dernier Noël.
Donc, ensuite,
la bande-annonce.
Je ne vais pas me répéter, mais nos auditeurs le savent déjà. Je ne le dirai pas, je pense qu'ils lisent déjà dans mes pensées.
Oui, bien sûr.
Donc, on va officiellement pour aujourd'hui ranger le sapin de Noël.
Voilà.
Et retrouver Roche Dizem pour le film Les Miens.
Dans le film Les Miens, mais oui, tout à fait, ça dure 1h25. C'est un drame de Roche-Dizem. Oh là là, ça m'ennuie de présenter Roche-Dizem parce qu'il est tellement connu, il a tellement de talent en réalisateur. Alors ça m'ennuie parce que il y a rien à dire de négatif sur lui, hein, qui est que du positif. Réalisateur, scénariste, acteur français, c'est son 6e long métrage. Il a 57 ans, il a 34 ans de carrière. Eh bien oui. Et il a quand même dans sa besace 9 prix et 29 nominations.
Et moi, dans ma besace, j'ai plein de bandes annonces.
T'as plein de bandes annonces, voilà.
Oui.
Et au fait, on lui doit un film qui a très bien marché en 2010, qui s'appelle Omar m'a tué, avec Samy Bouajila, voilà, et Salomé Stévenin, un prix, 4 nominations. C'était tiré du fait divers, dont on a entendu beaucoup parler, de cette dame qu'on a retrouvée assassinée et qui avait marqué à côté d'elle.
Elle a marqué de son sang sur la porte, voilà, Omar m'a tué.
Avec tué, T-U-E-R d'ailleurs, avec cette... bizarre faute là, c'était très bizarre. En tout cas, il y en a un film qui a très très bien marché. Et puis en 2016, on lui doit Chocolat. Pareil, qui a eu un succès fou, l'histoire du fameux clown Chocolat. C'est quand même Chocolat, c'était qui a existé, hein, absolument, c'est une histoire vraie, c'est le premier artiste noir de la scène française à la belle époque. Premier artiste noir de la scène française. Ça, c'est important quand même. C'était Omar Sy qui jouait le rôle, et il était avec Clotilde M en particulier. Il y a eu 4 prix et 4 nominations également. Et là, on est sur un drame, donc, je l'ai dit, d'une heure 25 français. Il y a 4 nominations à la Mostra de Venise 2022. Et de quoi s'agit-il? Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l'opposé de son frère, Rayad, présentateur télé à la grande notoriété et qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend. Moussa qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour, Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d'un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 4 vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Rayad. Alors, c'est pareil, hein, c'est tiré d'une histoire vraie, justement, puisque Roche-Dizem s'est inspiré de l'accident de son petit frère, son vrai petit frère à lui, qui après un choc à la tête est devenu quelqu'un au franc-parler, désinhibé et féroce. Il nous dit d'ailleurs, cet événement a créé un cataclysme au sein de ma famille, qui est une famille à la fois très soudée et en proie aussi à des conflits, comme dans toutes les familles. Tout ce qui constitue cet accident nous a bouleversés. Que l'un d'entre nous soit touché, c'est tous les autres qui s'en trouvent affectés. Voilà ce qu'il nous dit sur cette histoire. À chaque fois qu'on parle de ce type de famille, ajoute-t-il, c'est dans la majorité des cas pour parler de la religion, de place dans la société ou de voile. Il fallait que les enjeux de cette histoire dépassent tout ça. Les miens, c'est une famille ordinaire. Et donc, pardon, comme toutes les familles, son histoire est aussi paradoxalement extraordinaire parce que particulière. Voilà ce qu'il nous dit sur son film, qui est assez étonnant, c'est assez épatant. Hein. Alors, évidemment, si ce film s'inspire d'un incident dramatique, évidemment, cette histoire du petit frère, il n'est pas pour autant dépourvu d'humour. Et alors, Roche-Dizem s'est rendu compte, en racontant l'histoire de son frère à son entourage, qu'elle provoquait autant de sourires que d'inquiétude. Et oui, il nous dit, la personnalité tout à coup sans filtre de mon frère, le bouleversement que ces réactions provoquent sont tels que l'on passe sans cesse du drame à la comédie. On rit parfois, on est choqué, souvent. On devait retrouver ces aspects dans le film à la manière de certaines comédies italiennes que je regardais quand j'étais enfant. Voilà. Et alors, Maïwenn, quand je vais donner le nom des acteurs, Maïwenn joue, elle a un rôle dans ce film, mais en même temps, elle a coécrit le film avec Roche-Dizem. Justement, hein, elle y a pris part, elle y a pris une part extrêmement importante. Et il nous dit d'ailleurs, en parlant d'elle, elle m'a permis d'écrire rapidement, de façon directe, instinctive. Jusqu'à présent, pendant le processus d'écriture de mes scénarios, l'intellect prenait beaucoup le dessus. Or, je suis quelqu'un qui écrit naturellement, avec une approche plutôt organique. Avec Maïwenn, on est tout de suite dans la chair. On théorise peu, on va à l'essentiel. Voilà. Elle lui a donc demandé, en amont de l'écriture, de constituer pour chaque personnage une fiche personnelle en indiquant son parcours, sa profession et son caractère. Voilà, voilà ce qu'on peut dire, quelques détails qu'on peut donner sur ce film qui est quand même qui est pas banal hein, du tout. Hein. C'est vraiment un film assez extraordinaire et qui mérite absolument ses 4 nominations, même il aurait pu avoir plus. Bon, on verra à l'avenir de toute façon. Hein.
Moi, je trouve qu'il reflète un peu une histoire racontée dans une série que je trouve très, très. Que je trouve super bien d'ailleurs. C'est oui. Afterlife, Ricky Gervais. Donc, je ne sais pas si tu connais Ricky Gervais.
Si, oui, bien sûr.
Un humoriste britannique, pour ceux qui ne le savent pas.
Et ça t'y fait penser?
Beaucoup, parce que c'est une série qui fait où il raconte l'histoire d'un homme dont sa femme est décédée et il n'a plus aucun goût à la vie et ça devient son super pouvoir à devenir avec beaucoup d'humour il s'en fiche de tout en fait, il fait n'importe quoi.
Oui, d'accord. Donc, il devient comme le petit frère ou comme l'acteur là dans le film. Parce que Moussa, alors donc, je n'ai pas donné le nom des acteurs. Moussa, c'est Sami Bouajila. Et Roche Dizem prend le rôle de Rayad, hein, le fameux acteur de télévision un peu moins. Il y a Myriam Serba, il y a Rachid. Pardon ?
On t'a très mal entendu au début.
D'accord. Donc, Moussa est joué par Sami Bouajila. C'est bon ? Roche Dizem joue Rayad. On a Myriam Serba, on a Maïwenn, on a Rachid Bouchareb, on a Abel Jaffri, on a Zem, on a Karl Malapa, Anaïd Rosam, Lila Fernandez dans les rôles principaux. Encore que tous les rôles soient principaux dans ce film, ils ont tous les acteurs, enfin, qui ne sont pas vraiment des acteurs, mais toutes les personnes présentes ont de l'importance dans ce film. Voilà, tous les personnages sont importants. Eh oui, les miens. Moi, je voulais en parler parce que, d'abord, à cause du talent de Roche Dizem, autant comme réalisateur que comme acteur, et puis parce que c'est une belle histoire, je trouve, quand même. Voilà. Partant d'un fait assez dramatique, il a fait quelque chose de très beau. Les miens. Tu avais peut-être une bande-annonce, tu avais une bande-annonce ?
Justement, ce que j'allais dire, on peut entendre... Du coup, la bande-annonce de cette belle histoire.
Merci.
On va démarrer tout de suite.
Merci.
Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue,
4.
Pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité,
je te baise.
Quoi ?
3.
Pour ce qui est de la tristesse,
6.
Tu te sens vraiment triste ?
C'est un trauma crânien franchement grave.
Il s'est passé quoi au juste ?
C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant.
Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif.
Merci. Combien on te doit ?
150 euros. En chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue.
Bah, je vais prendre ton chéquier, doudou.
Là, vous avez décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là.
Maman, tonton, là, c'est l'exorciste.
On le connaît plus du tout, là.
Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif.
Elles sont nulles, tes vidéos étaient moches.
La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire.
Je t'ai jamais vu comme ça de ma vie.
Quand tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile,
T'as ton petit frère qui est inconscient, encore une fois c'est moi qu'on appelle.
Moi j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
Bah non, on sait qu'il faut pas compter sur toi.
On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc c'est qu'en plus tu te prives de bons moments.
J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime.
Ça se voit pas.
J'aurais adoré avoir une famille comme ça.
T'es triste? Sur une échelle de 0 à 6, tu dirais combien?
C'était donc la bande-annonce de Les Miens de Roche Dizem. Donc,
oui.
On va passer à une autre histoire, Saint-Omer.
Ah oui, oui, Saint-Omer, eh oui, Saint-Omer. Ah, mais c'est quoi ça? Alors ça, c'est un drame, c'est judiciaire, ça dure 2h02 et c'est réalisé par Alice Diop, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice. Elle est franco-sénégalaise, c'est son premier long-métrage de fiction. Parce qu'elle a 14 ans de carrière et 9 tournages à son actif, des courts-métrages et des documentaires entre 2006 et 2021 qui ont été très bien accueillis. Ça lui a permis d'ailleurs de réaliser ce premier long-métrage. C'est inspiré d'une histoire vraie. Eh oui. Alors le film est à... Alors oui, ça c'est à noter, le film est le candidat de la France à l'Oscar du meilleur film international. Ah, pour l'instant, il en est le candidat. Donc, il y a 2 prix et 3 nominations à la Mostra de Venise 2022. Il y a un prix, le Lion d'argent, meilleur premier film. Et il y a le deuxième prix, qui est un prix, le prix Jean Vigo. Bon, on va voir de quoi il s'agit quand même. Il s'agit de Rama. Enfin, c'est pas elle l'héroïne, si j'ose dire, entre guillemets. Elle fait partie des personnages du film. Rama, un personnage extrêmement important. C'est une jeune romancière qui assiste au procès de Laurence Colly à la cour d'assises de Saint-Omer. Voilà d'où vient le titre. Cette dernière, Laurence Colly, est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois ça m'émeut un peu cette histoire, beaucoup même. En l'abandonnant donc à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. Alors on passe dans un film beaucoup plus difficile, hein, beaucoup plus. On a entendu parler de cette histoire. Non, c'est une histoire vraie, effectivement, de cette maman qui avait laissé son bébé la marée montante sur la plage. On avait entendu parler d'elle. Et alors là,
Non, tu m'as pas laissé.
Voilà. On a un casting qui est très joli. Rama est jouée par Kayige Kagame. Elle est formidable, hein, Kayige Kagame dans le film. Extraordinaire. Et je ramasse cette jeune romancière qui va être... Enfin, il ne faut pas trop en dire quand même. Bon, on a alors Laurence Colly, qui est accusée donc, est jouée par Guslaji Malanda. Épatante également d'ailleurs. On a Valérie Dreville qui joue la présidente du tribunal. On a Aurélia Petit qui joue l'avocate dans le tribunal. On a Xavier Mali, on a Robert Cantarella qui joue l'avocat général. On a Salimata Kamate, on a Thomas de Porcury, on a Adama Diallo Tamba, qui joue la mère de Rama, la jeune romancière. Et puis on a les sœurs de Rama, qui sont jouées par Mariam Diop et Dado Diop. Donc c'est un beau casting. Alors en fait, derrière cette histoire de Saint-Omer se cache l'histoire vraie, on en parlait justement, de Fabienne Cabou, une mère condamnée en 2017 pour infanticide. Le 20 novembre 2013, le corps de sa fille Adélaïde, 15 mois, est retrouvé par un pêcheur sur la plage de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Sa mère, qui ne l'avait jamais déclarée à l'état civil, l'avait abandonnée la veille sur cette plage à marée montante. Si les autorités envisagèrent d'abord qu'il s'agissait d'une migrante dont l'embarcation avait chaviré, leurs soupçons se tournèrent vers Fabienne Cabou, qui reconnaîtra en garde à vue avoir mis fin au jour de sa fille, parce que, a-t-elle dit, c'était plus simple comme ça. Son procès s'est ouvert en 2016 devant la cour d'assises de Saint-Omer, alors qu'elle encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Elle est condamnée en première instance à 20 ans de réclusion criminelle. Et quand elle a été jugée en appel à Douai, en 2017, devant la Cour du Nord, elle est finalement condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. Une peine assortie d'un suivi socio-judiciaire de 8 ans avec injonction de soins. Ah. Donc Alice Diop, la réalisatrice, affirme que ses films naissent toujours d'une intuition qui grandit au point de devenir une obsession. Pour Saint-Omer, l'obsession est venue d'une photo publiée dans Le Monde en 2015. Cette image en noir et blanc prise par une caméra de surveillance montre une femme noire, garde du Nord, poussant un bébé métis emmitouflé dans une combinaison. Deux jours plus tôt, un bébé avait été retrouvé à Berck-sur-Mer. En voyant la photo, la réalisatrice a su d'emblée qu'elle était sénégalaise. Je sais qu'elle a le même âge que moi. Je la connais tellement que je me reconnais. Voilà ce qu'elle nous dit. Alors, elle a suivi l'enquête. Je suis l'enquête quasiment heure par heure, puisque tous les journaux parlent de ce bébé. Elle finit par se rendre au procès en juin 2016. Je n'en parle à personne, je ne m'explique pas cet acte fou qui consiste à aller au procès d'une femme qui a tué son bébé métis de 15 mois, alors même que je suis également la jeune mère d'un enfant métis.
Alors, je te propose de passer au prochain film, parce que le temps commence à nous rattraper.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc là, on avait... Donc ce film qui est très bien fait, et je pouvais pas passer à côté. Et le prochain film, c'est She Said. Ça dure 2h09, c'est un drame, c'est un biopic, c'est judiciaire également. C'est réalisé par Maria Schrader, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice allemande. C'est son 4e long métrage, elle a 57 ans, 29 ans de carrière, 27 tournages à son actif, dont 4 longs métrages entre 2007 et 2022. Et elle a réalisé une série aussi pour la télévision allemande. Donc j'y cède. On va voir tout de suite, c'est l'histoire de deux journalistes du New York Times, Megan Toohey et Jodi Kantor, qui ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du mouvement MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. Dans les rôles, on a des Américaines et des Britanniques d'ailleurs. On a Carey Mulligan qui joue Megan Toohey. On a Zoé Kazan qui joue Jodi Kantor. On a Patricia Clarkson. On a Samantha Morton, André Boger. On a Jennifer Ely. On a Angela Yeo, Ashley Judd dans les rôles principaux. Et voilà. Et Zoé Kazan, au fait, qui joue Jodi Kantor, c'est la petite fille du grand réalisateur, le grand cinéaste Elia Kazan, qui est décédé en 2003 à 94 ans, fondateur de l'Actor Studio quand même, hein, metteur en scène, écrivain, etc., d'origine américaine, d'origine grecque. Donc c'est sa petite fille qui joue là dans ce film. Voilà. On lui doit quand même à Elia Kazan, c'est juste pour rafraîchir, hein, à l'Est d'Éden avec James Dean. James Dean, en 1955. qui ne connaît pas À l'Est d'Éden quand même. Voilà. Enfin, c'est tiré de faits réels. Hein.
Oui, l'affaire Weinstein, du coup.
Ah bah oui, Me Too. Ouais. Bah, c'est She Said, hein. Le film est adapté du livre Enquête du même nom, qui est co-écrit par les journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Toohey. Voilà. Donc elles ont publié ce rapport sur les agissements de Harvey Weinstein, dans lequel plus de 80 femmes accusent le producteur d'abus ou d'agressions sexuelles. Voilà, cette enquête est à l'origine du mouvement Me Too. Elles ont été récompensées d'ailleurs, hein, par leur travail en 2018, récompensées par le prix Pulitzer du service public.
Oui. J'ai donc la bande annonce.
Oui, merci.
Donc, on va lancer tout de suite. Donc, la bande-annonce She Say.
Très bien, merci.
Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer? C'est tout le système qu'il faut remettre en cause.
Bonjour, je m'appelle Jodie Kantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times.
Alors ?
On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables.
Je refuse d'être citée. Point final.
Entendu.
Dans tes articles précédents,
qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience ?
L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé. »
Mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte
que d'autres personnes soient protégées.
La vérité, c'est tout.
On a le détail de toutes ces histoires.
Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient toutes être un rendez-vous professionnel.
Je revois encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces.
Il essayait sans arrêt de me toucher.
Je lui ai demandé de me laisser tranquille.
Et au lieu de ça, il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles.
J'étais jeune, j'avais peur.
Bonjour.
Nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein.
Certains ont déjà voulu écrire cette histoire, mais à chaque fois, il étouffe l'affaire.
Harvey nie catégoriquement toute allégation d'agression.
Il a berné tout le monde. C'est un maître de la manipulation.
Je vous en prie, donnez-moi la possibilité de vous parler.
Vous êtes sûr que ces jeunes femmes ne cherchent pas à coucher avec un producteur pour lancer leur carrière ?
Ça va au-delà de Weinstein. Là, on parle d'un système qui protège les agresseurs.
Les femmes qui ont reçu une compensation financière ne peuvent pas parler. Elles seront poursuivies si elles le font. Mais si quelqu'un pouvait parler ouvertement des indemnisations...
Quelles indemnisations, John ?
Il faut que vous ayez en tête que tous les appels que vous passez sont enregistrés et que vous êtes suivis.
Tu te rends compte du nombre de Harvey qui se baladent ?
Vous voulez que je me fasse tuer ?
Tu regrettes de t'être embarqué sur ce dossier ?
Et toi ?
Non.
La seule façon pour ces femmes de faire une déclaration officielle,
c'est de se lancer tout en même temps.
On est tous là, Harvey.
À qui avez-vous parlé ?
J'ai 3 filles, et je veux que jamais elles n'acceptent ni violence, ni harcèlement. Je vais faire une déclaration officielle.
Allez-y. Vous avez le feu vert.
Ça va sortir, c'est bon.
Vous m'avez bâillonné. Je veux retrouver ma voix.
C'était la bande-annonce de She Said, et maintenant on va passer à un film indien, si oui. Mes souvenirs me trompent, sont bons.
Oui, iranien. Iranien. Il s'agit du réalisateur, l'immense réalisateur Jafar Panahi, réalisateur, producteur, monteur iranien. Il a 62 ans, 33 ans de carrière, 24 tournages, 9 prix, 61 nominations. Il a reçu un prix et 7 nominations, le prix du scénario pour le film 3 visages à Cannes 2018. Et d'ailleurs, il est assigné à résidence dans son pays. Il a donc reçu cette récompense à l'époque, en 2008, à l'aéroport de Téhéran. Voilà. Il a eu un ours d'or à la Berlinale 2015 pour Taxi Téhéran, 7 nominations. Et l'ours d'argent à la Berlinale 2013 pour Close Curtain, Fermer le rideau. Meilleur scénario et 8 nominations. Bref, très très primé cet homme-là. Son film dure 1h47. 47, pas 45, 47. C'est un drame, il y a de la romance, c'est du thriller. C'est une production iranienne. Il y a un prix et 3 nominations à la Mostra de Venise 2022, le prix spécial du jury. Dans un village iranien, proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d'une histoire d'amour, tandis qu'il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ? Jafar Panahi est dans son film. C'est des acteurs iraniens. Il y a Mina Kavani, il y a Vahid Mobasheri, il y a Nasser Hachemi, il y a Nina Khosrovani et Batikyar Panjehi. C'est pas facile à prononcer. Je vais me mettre à l'iranien dès ce soir. Et ne ris pas parce que toi, tu vas t'y mettre aussi, Thibaut. Il n'y a pas de raison. Jafar Panahi. Aucun ours. Le titre du film, à voir, oh là là, c'est joli comme tout, ce beau cinéma. Et puis j'ai Le Menu. Alors Le Menu, c'est un film qui était très 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 attendu, on en parle déjà énormément d'ailleurs. Il y a déjà beaucoup de pubs sur ce film, Le Menu, ben oui. Et donc, il s'agit, alors c'est réalisé par Marc Mylod, qui a travaillé avec les scénaristes Seth Rice et Wile Tracy, des scénaristes américains, parce que lui, c'est un réalisateur, producteur britannique, c'est son deuxième long métrage. Il a 57 ans, 23 ans de carrière, 19 tournages à son actif, mais c'est le deuxième long métrage de fiction. Ah, il a réalisé un nombre impressionnant d'épisodes de séries britanniques, entre 1998 et 2022, même 23 d'ailleurs, il continue. Son premier long métrage, c'était en 2002, ça s'appelait « Aligue ». C'est l'histoire d'un rappeur qui devient député. Et c'était Sacha Baron Cohen qui jouait le rôle principal. Là, le menu, 1h48, c'est un thriller. Il y a de l'épouvante et de l'horreur. C'est un film américain. Et c'est assez extraordinaire comme film. Alors, j'ai perdu ma note là. Ah ben mince. J'ai perdu ma note sur le menu. Bon. Alors, c'est pas terrible. Mince, j'ai perdu ma note, là. Marc, tu l'as pas, toi, des fois, le... tu n'as pas, des fois, le... Comment ça s'appelle ?
Attendez, je vais animer. Bougez pas.
Mais c'est ma note, c'est mes notes, là. J'ai tout mélangé. Oh, mince, attends, je vais retrouver. Ah, oh, bah alors... Ah ben oui, ça m'arrive, hein. C'est tombé là, il y en a dans tous les sens, voilà, je cherche pour retrouver, mince.
Donc le menu.
Alors, menu, ah ça y est, j'ai retrouvé ma note, oh excusez-moi mes chéris, oh excuse-moi Thibault.
C'est pas grave. Donc,
c'est interdit au moins de 12 ans, hein. C'est l'histoire d'un couple qui se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d'autres invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales. Alors il y a un casting assez extraordinaire dans le rôle du chef cuisinier. Il y a Ralph Fiennes qui est un acteur anglais extraordinaire. Il a un talent fou. On a Anya Taylor-Joy dans les films, des actrices britanniques aussi. Oh, elle est britannico-argentine. On a Nicolas Hoult, qui est un acteur britannique. Hong Cho, on a Jamet Mitir, on a Reed Birney, on a Paul Adelstein, on a Aimé Carrero, c'est une actrice dominicaine. On a Rob Young, on a Peter Gross. Alors lui, joue le rôle du sommelier, acteur américain. Et puis on a Judith Light. Alors Judith Light, c'est une actrice américaine qu'on avait découverte en France, on l'a découverte en France dans la série Madame est servie, qui avait duré, je crois que c'était entre 1984 et 1991. Voilà, Judith Light, c'était Angela Bauer qui avait un homme de ménage qui travaillait pour elle, qui était joué par Tony Danza. On l'avait découverte à ce moment-là, Judith Light. Beaucoup de talent. Bon, en tout cas, elle est dans ce film également. Voilà. Et le scénariste dont j'ai cité le nom, Will Tracy, un jour, il y a quelque temps, a pris un bateau pour se rendre dans un restaurant chic sur une île privée voisine. Il se rappelle, je suis un peu claustrophobe et quand nous sommes assis pour manger, j'ai vu le bateau quitter le quai. Et c'était une petite île et j'ai réalisé, mon Dieu, nous sommes coincés ici pendant 4 heures. Et si quelque chose tournait mal ? Voilà, ça c'est tout le mystère du film justement. C'est pas pour rien que je voulais vous parler de ce que disait ce scénariste. C'est important ça. Coincé sur ce bateau et s'il se passait quelque chose ? Parce que c'est une petite île. Voilà, une île entourée d'eau, on est d'accord ?
Donc, ouais, le principe du Nil, quoi.
Ben voilà, ouais, oui, mais coincé là pendant 4 heures, et si quelque chose arrivait. Et du coup, il a eu cette idée, il a eu l'idée de ce film, grâce à ce souvenir.
Ça fait penser au film Escape ou Escape Game, je ne sais plus.
Oui, Escape Game, oui. Oui. Ben, je vois de quoi tu veux parler. Oui.
Ah, c'est très bien d'ailleurs.
Ah ben oui, mais celui-là aussi, hein. Ah bah celui-là,
oui.
Ah bah oui.
La bande-annonce a l'air super bien.
Ah oui, bah oui. Bon, ben voilà, on termine avec ce film, hein, ma foi. Oh, ben j'avais aussi un titre à donner sur un chouette film d'épouvante et d'horreur aussi, mais du bon, c'est du bon, ça pour les amateurs. C'est du drame aussi, de la romance, ça dure 2h10, ça s'appelle Bones and All. Et c'est de Luca Guadagnino, qui est un réalisateur, scénariste, producteur espagnol de 51 ans. Il a déjà quand même 22 ans de carrière et 24 tournages à son actif.
Et c'est qui a aussi fait dans son CV une grosse série Netflix.
Ah oui, et puis en 2018, il a réalisé un film qui a très très bien marché, Call Me By Your Name. On en avait parlé d'ailleurs sur Radio Entre Deux Mers de ce film en 2018. Ah. Et donc, je voulais donner le titre quand même parce que je n'ai plus trop le temps d'en parler. Je pense que là, on va se quitter, n'est-ce pas ? Normalement.
Oui, on est en train d'atteindre
voilà.
Notre
temps imparti, parce qu'il y a il y a autre chose après l'émission, Conversation autour du cinéma. Dieu merci, il y a encore plein d'émissions et plein de musique à écouter. Ah oui, dans Bones and All, quand on a, dans le rôle principal, on a Timothée Chalamet. Timothée Chalamet, qu'on a beaucoup aimé dans Dune, le dernier Dune qui est sorti là. C'est lui qui joue le prince héritier. Timothée Chalamet. Il est dans ce film.
Qui est très bien d'ailleurs.
Voilà, eh oui.
Un acteur avec un film d'ailleurs.
Bones and Hall, ah oui, ça pour les amateurs de frissons, c'est super. Les deux d'ailleurs, le menu là et Bones and Hall, c'est deux films qui donnent des frissons pour les amateurs et Dieu sait qu'il y en a énormément. Voilà. Eh bien,
Avant de se quitter, parce qu'on ne se quitte pas tout de suite, attention, on va d'abord écouter la bande-annonce du menu.
Oui, d'accord.
Donc, d'accord. On va d'abord écouter ça. Donc, la bande-annonce tout de suite.
Du menu, d'accord.
On va tous tenir à bord ?
Oui, sans problème. On sera que 12.
Comment ils gagnent leur vie ?
$1,250 par personne, voilà comment.
On va manger quoi ? Une Rolex ?
L'un de ses plats signature. C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de saveur.
Arrête de dire en bouche.
Ce dîner va être une pure folie.
Bienvenue. Nous ferons tout notre possible pour que cette soirée vous soit agréable.
Bienvenue à Outor.
Nous formons une famille.
Reset.
On récolte, on fermente, on fusionne. On fusionne.
Ce n'est pas qu'un chef, c'est un conteur d'histoire. Le but du jeu, c'est de mettre en lien les indices pour deviner le thème du repas. Ça, bien sûr, on le saura qu'à la fin.
Qui êtes-vous ?
Je suis Margot. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
J'ai besoin de savoir, êtes-vous avec nous ou avec eux ? Ce menu.
Les images, elles sont toutes en lien avec nous.
La liste des invités.
Comment ils les ont eus ? Ça sent pas bon.
Le déroulé de la soirée.
Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre.
On s'en va maintenant. Ont été minutieusement préparés. Il l'a fait pour de vrai.
Je peux savoir ce que ça veut dire.
Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Ok, 45 secondes à compter de maintenant. Tout ceci fait partie du menu.
Laissez-moi passer.
Ça fait partie du menu.
Claude, ça va aller.
Non, on va tous mourir ici.
Oui, je crois bien.
Joyeux anniversaire.
Tu leur as dit que c'était mon anniversaire ?
Je trouvais que c'était une bonne idée il y a 3 heures.
C'était donc la bande-annonce du menu, et c'est cette fois qu'on va se quitter.
N'est-ce pas ? Bon. Oh, bah mince. Tant pis. Bon, tant pis, mes chéris, en tout cas. Bah écoute, je te souhaite une bonne semaine. Et puis à vous aussi, mes chéris, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, soyez heureux. Comme je vous dis à chaque fois, le plus que vous pouvez, vivez bien vos journées entièrement depuis le lever jusqu'au coucher. Profitez de la journée, carpe diem. Mais alors, à fond, à fond. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Thank you.
entre Garonne et Dordogne, REM 98.4 FM.
À l'Aréole, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Radio Entre-deux-Mers, à Blasimont sur le 98.4 FM. Vous écoutez REM en FM à Cadillac sur le 98.4. REM, l'Entre-deux-Mers à sa radio.
À Saint-Ferme, vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Je veux ça, loin du fond de ma chaise. Une ville neuve s'offre à moi, loin du fond de ma chaise.
Les mauvaises fois qui pourraient
pourrait encore dire qui est Saint Thomas quand son heure arrivera. Parce qu'on sait jamais.
Je me rappelle, je te dis, je te rappelle. Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel. Et quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois. Tu m'as demandé c'est qui, j'ai répondu c'est moi. J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid. Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée. Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer.
Si toi te souviens, tant mieux pour toi. Moi je n'ai rien que de blablabla. C'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me baby, cause I can't remember you. Les souvenirs manquent pas la peine. Les souvenirs, oh toi qui te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs manqués.
Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit. Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie. Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu. Difficile d'être un étranger à tes yeux. Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi, des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie. De nos gestes et enfin de nos corps en vie. Et du reste, à la fin, j'ai encore envie.
Envie de quoi? Envie de qui? Mais de quel corps? Mais de quelle nuit?
Le mec de la soirée.
Alors,
du coup, on te soit.
Comment?
Oh là, je te dérange.
Mais j'adore.
On s'était dit qu'on allait se revoir.
Mais quand?
Mais tu vois qui je suis ou pas?
Aucune idée.
Mais tu m'avais dit de te rappeler.
Ah bon?
Pourtant, l'autre nuit.
J'ai oublié.
100% nouvelles scènes sur REM.
Interdit de pirater sur Internet, interdit de dessiner le prophète, interdit de réfléchir sur les photos d'identité, pas de sourire, pas de pied de nez, interdit de déconner, interdit le bikini en ville, chanter dans la rue, danser sur un fil, interdit de frôler la mort. Et sans titre de transport, sans point de chute et sans passeport, interdit de s'envoler, interdit, interdit de s'envoler, interdit, interdit de s'envoler.